Donc là maintenant que j'ai lu ce poème d'ouverture que j'ai oublié d'enregistrer, mais ce n'est pas grave. On va commencer vraiment.
Pardon, je relira.
Je pourrais le relire, oui, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, je ne sais pas si on commence un petit peu par des éléments biographiques un peu de Jean-Paul. Qui figure dans pas mal d'ouvrages, mais dont tu peux parler aussi, Chris,
bien sûr. Ça m'est difficile d'en parler parce que je suis très concernée. Et
oui, non, mais je ne parle pas des éléments bio qui vous concernent tous les deux.
Éléments
de naissance, de jeunesse, d'origine de Jean-Paul, je ne sais pas. T'es pas obligé, hein, mais je peux le faire aussi.
Je préférerais même que tu le fasses.
D'accord. En sachant que donc, alors, peu de temps, donc l'année qui a suivi, je ne sais pas si c'est l'année, à quel moment tu l'as fait,
Je crois que c'est en 2014.
2014. Donc, je vous rappelle que Jean-Paul est décédé le 24 novembre 2013. Il était né en novembre aussi. Il était né à Paris, mais il n'était pas vraiment parisien de cœur.
Il était parisien, mais de souche auvergnate.
Voilà. D'où d'ailleurs les liens qu'il a avec le cercle Amélie Murat qui est installé à Clermont-Ferrand.
Qui est à Clermont. Je ne sais pas s'il existe toujours. Mais c'était un cercle aussi. Il y avait des problèmes.
Je me le demande parce que je me demande si.
Je crois qu'il existe.
Qui Elisabeth Launay-Dolet qui est là-bas. Il me semble qu'elle.
Il y a quelques années.
Ouais, voilà.
Elle existe toujours parce que la présence d'une publiée à l'ouvrage que j'ai recensé dans la montagne il y a quelques années.
Ah, d'accord.
Voilà, donc. Et il me semble qu'Elisabeth nous en a parlé aussi.
C'est une bonne nouvelle.
Voilà, donc du coup.
Parce qu'ils étaient très actifs à Clermont.
Donc Jean-Paul d'origine auvergnate, avec
sa mère était limousine et c'était une descendante de la famille Mounet, le célèbre
Mounet-Sully,
c'est ça, l'acteur.
Ouais. Alors des photos, vous la voyez ici. J'en ai une aussi. Elle est très belle cette photo en plus. Il a un super sourire. Et j'ai également un document où il apparaît.
C'est dans la montagne, ça.
Ça, non, c'était carrément au Brésil.
Hein. Ah oui, au Brésil.
Puisque c'est Henri Bernier qui a donc écrit un texte au moment où il a eu un prix donc à le cercle Amélie Murat. Et Jean-Paul a été reçu à ce moment-là. C'est plutôt Henri Bernier, au moment de son prix, qui a fait une présentation de Jean-Paul Mestas.
Oui.
C'était toute un après-midi avec à la fois présentation, concert, donc à Clermont-Ferrand. Et dans sa présentation, Henri Bernier évoque la vie donc de Jean-Paul, famille maternelle, donc oui. Comme tu viens de le dire, la famille Mounet, enracinée dans la ville de Brive. Donc c'est voilà, où sa mère, Paul Mounet, voisine et amie de Colette, cette mère dont il nous dira que ses yeux portaient le vert de la Corrèze, avait vu le jour en 1904. Son père, quant à lui, était originaire d'Orion, d'un père lui-même de Bourlastique et d'une mère native de Châtel-Guyon.
Ah là, on est vraiment
Et donc, dans cette présentation d'Henri Bernier, il est précisé que l'activité de son père l'a entraîné en Afrique à un moment donné, où se déploieront une partie de son enfance et de son adolescence. Revenu en France en 1941 pour préparer l'école normale supérieure, il entrera de plein fouet dans l'occupation et la guerre.
C'est officier de marine.
Ouais, voilà.
Il s'est engagé à 17 ans. Il a fait les convois de Mourmansk, pour ceux qui connaissent, les convois dramatiques, puisque il y a 30% de personnes qui rentraient et 70% de gens étaient morts en pleine mer dans les glaces. Il est revenu très marqué de ce périple, c'est pas le mot, de cet engagement, et malgré ça, il a repris des études. Et il est revenu dans la vie active. Mais je dois dire que même jusqu'en l'an 2005-2006, il faisait encore des rêves. de ces, enfin des cauchemars de ces attaques sur les bateaux.
Et c'est cette période qui l'a inspiré dans le livre qui a été publié en 1982, En ce royaume d'ombre et d'eau.
Exactement.
Donc il reprend effectivement des études littéraires achevées et il débute donc dans l'ingénierie. C'est ce qui l'a conduit sur toutes les routes du monde, Maghreb, Proche-Orient, quasi-totalité des pays d'Europe. C'est, je pense que c'est lié à ça, c'est à cause de ça qu'il a eu envie d'avoir des liens aussi avec les poètes.
Exactement.
Du monde entier,
oui, tout à fait.
Puisque il a d'énormes liens en particulier avec le Brésil, les pays de l'Est,
la Roumanie en particulier,
Roumanie,
aussi,
voilà, oui, c'est vrai. Voilà.
À l'époque donc, de Ceausescu, où c'était les rencontres étaient difficiles.
Et donc là, c'est mentionné qu'il donc noue des liens infrangibles avec les cercles littéraires et artistes locaux, donc de tous les pays où il passe. Il deviendra, selon l'expression de Eddie Bouraoui qui m'avait envoyé un message aussi, hein, que lui, évidemment, il est loin, donc...
J'ai pas eu ça.
Il me semble que moi, il m'a répondu.
C'est à toi, c'est à toi.
Ouais. Donc, Eddie Bouraoui en parlait comme un homme médiateur d'innombrables relations humaines. Et donc, Henri Vernier toujours, hein, je lis sa présentation, des extraits. Ce sera en parallèle à une œuvre monumentale qui marquera à jamais l'écriture poétique de la grande affaire et l'autre réussite de sa vie. Et elle s'inscrira à deux niveaux. Le premier dans une volonté d'universalité. Le second dans le souci de défendre la langue et la culture française.
Oui, ça c'était une chose qui lui tenait à cœur.
Alors,
parce qu'à la suite, par exemple au Brésil, les gens, ils demandaient qu'ils écrivent en français, et lui répondait en brésilien. Et à la suite de ces échanges, il y a eu, je ne me rappelle plus de la ville, je crois que c'est Goiânia, et puis une autre ville importante. Ils ont ouvert une école de français pour étudier la poésie. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'était vraiment une récompense pour lui. Et je suis toujours en relation avec quelques Brésiliens qui sont très fidèles en amitié.
Il y a Alice Spindola,
oui, c'est
en particulier.
Ça, oui.
Donc il lui fait allusion d'ailleurs aussi à Barbosa,
Miguel Barbosa.
Miguel Barbosa.
Portugais.
Lui. Il est portugais, lui, c'est différent. Donc, alors c'est bon, je reviendrai après sur, oui, un petit peu la poésie. Je vais continuer un petit, oui, peu dans les dates. Donc c'est en 77 qu'il crée la revue Jalon, qui était ouverte à quantité de poètes. Revue qu'il voulait. À la fois vraiment une revue de partage, dans la mesure où en plus il ne la vendait pas, il l'envoyait,
elle était gratuite,
à des quantités de poètes. Et c'est à la suite donc de la création de la revue Jalon qu'il a créé donc l'association Art et Jalon en 81, et qu'il a donc voulu à tout prix lier à la fois les arts et la poésie, dans la mesure où il faisait tout en collaboration, bien sûr, avec Chris, dont vous voyez des œuvres là-bas. On fera peut-être à un moment donné une petite pause, comme ça vous permettra de mieux voir les œuvres. On en reparlera aussi de toute façon.
Et puis c'est là la création où c'était à Saint-Mandé, à Réjalon.
Voilà.
Et on était dans une salle, tu te souviens?
Alors, on était à l'origine dans une chapelle désaffectée, c'est ça?
Oui, oui.
Et puis après, je sais pas, la chapelle.
C'est Robert Boulin qui avait découvert cette salle.
À Saint-Mandé, qui avait fait les démarches auprès du maire, comme lui, il était habitant de Saint-Mandé, qui avait pu obtenir une salle mise à disposition gratuitement. Ce qui fait que depuis le décès d'ailleurs de Robert Hugues Boulin, je me disais un jour la mairie va s'apercevoir qu'on est là de façon un peu incongrue, ils vont peut-être nous virer, mais non. Là, au moment du changement de bâtiment, ils ne se sont même pas posé la question.
Il
n'y a pas de souci, mais bon. Voilà. Et donc, en 81, c'est en... Oh là là. Puis ensuite, vous êtes parti en province.
Oui.
Et donc, d'accord, voilà.
Ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. Et l'association, à ce moment-là, a été reprise par André Lagrange, qui s'en est assez vite débarrassé à nous, assez vite, parce que bon, c'est vrai que ça lui pesait un peu, les démarches, les contacts. Voilà.
On ne revenait plus trop à ce moment-là.
Non, voilà, et c'est vrai qu'il n'y avait plus très
grand monde.
Il n'y avait plus grand monde qui venait, et bon, il a. Ça l'encombrait plutôt qu'autre chose, la responsabilité de l'association, donc c'est là où je l'ai récupéré. Voilà, bon, ça c'est pour un aperçu historique de la
d'Arrée-Jalon,
mais je ne vais pas monopoliser la parole, puisqu'on a plusieurs amis qui vont intervenir. Donc, qui veut commencer ? Vous battez pas, hein ? Nicole, bon, allez, alors, Nicole, on va aller prendre dans l'ordre.
J'ai beaucoup aimé ce que la part que vous avez vue sur le Jean-Paul Mestas dans l'universalité.
Oui, l'universalité.
Et moi, je l'appelle un peu un passeur, parce que grâce à lui et à Jalon, j'ai rencontré la poésie roumaine. Et c'était une époque, effectivement, où c'était très fermé, on n'avait pas du tout de contact. Je lisais Anna Blandiana avec un grand bonheur, et surtout, grâce à Jean-Paul Mestas, j'ai rencontré Constantin Krishan.
Ah oui.
Constantin Krishan, c'était un personnage.
Ah oui, un personnage.
Professeur d'esthétique à Bucarest, avec toujours des nœuds papillons mauves et des choses comme ça. Et Constantin Krishan, la première fois, je ne sais plus quand je l'ai rencontré, m'a apporté un livre de Nikita Stanescu qui s'appelait Leçon sur le cube. Et on a commencé à parler de Nikita Stanescu. Et de fil en aiguille, je me suis tellement intéressée à Nikita Stanescu, je lisais en même temps la traduction de Constantin Krishan, une traduction très fleurie, très 19e siècle, hein, très enjolivé, je dirais. Et moi, je voyais bien, enfin, ça me chipotait un petit peu. Et j'ai eu la chance de rencontrer à Rennes une jeune étudiante roumaine qui arrivait tout juste de Bucarest, Iulia Tudor-Scodre, et qui avait les œuvres de Nikita Stanescu. Elle me disait, je n'aime pas la poésie, mais ce poète-là, je l'ai. Et elle avait un vieux livre tout déglingué, de Nikita Stanescu, ce qui fait que je me suis mise à relire avec elle le roumain, avec la traduction de Constantin Krishan en face, et là je me suis rendu compte qu'effectivement lui il avait beaucoup enjolivé les choses, et que la poésie de Nikita Stanescu était beaucoup plus, concise, et bon. Alors voilà, donc j'ai envie de lire pour en hommage un peu à Jean-Paul Mestas, un très beau poème, enfin un poème de Nikita Stanescu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Orphée dans la cité ancienne. Le poète, un faucon sur l'épaule, entre dans la cité. Il se sent très troublé, pareil à l'étoile Canopus, celle qui siège dans l'hémisphère austral, que voient seulement ceux qui ont des lunettes au cœur. Personne ne voit le poète. Les uns ne le voient pas parce que la vue leur manque, d'autres ne le voient pas parce que le cœur leur manque, enfin les autres ne le voient pas parce qu'ils n'existent pas. Ils ne sont pas. Tous disent en chœur, le poète n'est pas bon à boire, donc nous ne le comprenons pas. Le poète ne sent pas bon comme la fleur, comment peut-on le comprendre? Comment peut-on prendre ce qui ne sent pas bon comme la fleur pour une fleur? Le poète marche dans la rue. Va au diable, lui siffle le faucon sur son épaule. Va-t'en au diable, idiot, lui siffle le faucon sur son épaule. Le poète fait semblant de ne rien entendre. J'ai vu de mes propres yeux un poète entrant dans la cité. Il serrait dans sa main droite, dans son poing droit, un faucon étranglé. Bon, c'est un poème qui m'émeut toujours énormément, et je me dis, Jean-Paul Mestas, il était un peu ce poète-là qui... qui transmettait, qui marchait quand même dans la cité, même si la poésie n'était pas, pas toujours reconnue, quoi. Alors, j'ai quand même envie de vous lire deux autres poèmes de Nikita Stănescu. Pour moi, c'est vraiment ça, l'hommage à Jean-Paul Mesta, c'est ce passage, il a été un passeur. Et cette ouverture qu'il nous donnait par la revue Jalon. Alors, de Nikita Stănescu, toujours. Il a tendu vers moi une feuille, comme une main, avec des doigts. Moi, j'ai tendu vers lui une main, comme une feuille, avec des dents. Il a tendu vers moi une branche, comme un bras. J'ai tendu vers lui un bras, comme une branche. Il a penché son tronc vers moi, comme un pommier. Moi, j'ai penché vers lui mon épaule, comme un tronc noueux. J'entendais sa sève battre de plus en plus vite, comme le sang. Il entendait mon sang monter lentement, comme la sève. Je suis passée à travers lui. Il a passé à travers moi. Je suis restée un arbre, seul. Lui, un homme, seul. Alors, ça s'appelle les non-mots. Il y a d'ailleurs tout un recueil de Nikita Stănescu qui s'appelle les non-mots. Et je me suis aperçue qu'en roumain, les mots négatifs, comme ça, étaient très nombreux. C'est assez étrange. Hein, oui. Les non-mots, oui. N-O-M, hein, les non-mots. Alors, dernier poème que je vais lire, c'est « La leçon sur le cube ». Donc, qui avait donné son titre à la traduction de Constantin Krishan. La leçon sur le cube. On prend un bloc de pierre, on le taille avec un ciseau de sang. On le sculpte avec l'œil d'Homère. On le polie avec des rayons jusqu'à ce que le cube devienne parfait. On embrasse ensuite plusieurs fois le cube, avec ta bouche, avec la bouche des autres, et surtout avec la bouche de l'infante. Après quoi, on prend un marteau et brusquement on écrase un angle du cube. Tous, mais absolument tous, diront « Quel cube parfait aurait été ce cube s'il n'avait eu ce coin brisé ?» Alors, ce poème-là me fait beaucoup penser à un poème d'Yves Bonnefoy. Est-ce que j'ai le temps de le lire? Il n'est pas très long. Qui s'appelle « L'imperfection et la cime ». Alors, d'Yves Bonnefoy. « Il y avait qu'il fallait détruire et détruire et détruire. Il y avait que le salut n'est qu'à ce prix. Ruiner la face nue qui monte dans le marbre. » Marteler toute forme, toute beauté. Aimer la perfection parce qu'elle est le seuil. Mais la nier, sitôt connue, l'oublier, morte. L'imperfection est la cime. Bon, si j'ai encore une petite minute pour dire un poème d'Anna Blandiana ou non ?
Si tu veux, bon, c'est vrai que j'aurais préféré entendre du Jean-Paul, mais bon.
Ben oui, mais moi, malheureusement, alors, la vérité, c'est que j'ai Jalon dans un carton quelque part, et je ne le retrouve pas.
Voilà, on est tous pareil.
Ah oui, je suis aussi envahie par les
non,
livres,
mais bon,
et voilà.
C'est pas très long. Oui, vas-y.
Oui, mais parce que pour moi, c'est important.
C'est dans le même esprit, voilà,
oui,
vas-y.
Pour moi, il a vraiment été un révélateur.
Oui, oui, voilà, d'accord.
Voilà. Bon, maintenant, je vais
laisser. Non, vas-y.
Oui, bon, alors, juste de Dana Blandiana. Alors, faut pas oublier que c'est l'époque de Ceaușescu. Hein. Donc, c'est vraiment un poème à lire à double sens. Quoi. Neige. Au début, j'avais promis de me taire. Mais plus tard, au matin, je vous ai vu sortir avec des sacs de cendres devant les portes et la répandre comme on sème le blé. N'y tenant plus, j'ai crié « Que faites-vous? Que faites-vous? C'est pour vous que j'ai neigé toute la nuit sur la ville. C'est pour vous que j'ai blanchi chaque chose toute la nuit. Oh, si vous pouviez comprendre comme il est difficile de neiger. Hier soir, à peine étiez-vous couché que j'ai bondi dans l'espace. Il y faisait sombre et froid. Il me fallait voler jusqu'au point unique où le vide fait tournoyer les soleils et les étains, tandis que je devais palpiter encore un instant dans ce coin afin de revenir neigeant parmi vous. Le moindre flocon, je l'ai surveillé, pesé, éprouvé, pétri, fait briller du regard. Et maintenant je tombe de sommeil et de fatigue et j'ai la fièvre. Et je vous regarde répandre la poussière du feu mort sur mon blanc travail. Et souriant, je vous annonce, des neiges bien plus grandes viendront après moi. Et il neigera sur vous tout le blanc du monde. Essayez dès à présent de comprendre cette loi. Des neiges gigantesques viendront après nous et vous n'aurez pas assez de cendres. Et même les tout petits enfants apprendront à neiger. Et le blanc recouvrira vos piètres tentatives à le nier. Et la terre entrera dans le tourbillon des étoiles comme un astre brûlant de neige.
Merci.
Pour compléter l'histoire roumaine, Jean-Paul, à la fin de sa carrière, avait donné des cours de poésie roumaine à la Sorbonne. Il connaissait très bien le professeur Niculescu. Et c'est par ce biais qu'il a pu enseigner le roumain et il le traduisait, mais malheureusement il ne le parlait pas, n'ayant pas d'interlocuteur.
Juste un petit paragraphe de Arlette Chemersel qui nous dit « Un jour Jean-Paul, tu nous as fait une petite place dans tes cahiers, tu as ouvert les portes de Jalon, tu nous as dit « Venez, soyez des nôtres, soyons ensemble, nous avons des fleurs à semer, des murs à monter, des mots à échanger, le monde à partager. » C'est très beau. C'est tout à fait l'esprit. Et donc l'allusion au cahier, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que Jean-Paul, quand il faisait des présentations à Réjalon, il avait toujours son petit cahier, je ne sais pas combien de pages.
Ouais, de 200 Fontaine. Pages.
Non, pas 200
180.
Pages. Non, c'était au contraire les tout petits cahiers. Et c'était cadré pile dans le cahier, dans les présentations. Et on était là, c'était marrant, en fait, que ce soit ses présentations, plus poétiques, parfois un peu philosophiques aussi.
Ah oui.
Parce qu'il a écrit des choses quand même très très variées, mais je vais peut-être pas tout déflorer non plus. On continue dans l'ordre là, Michel.
Je ne sais pas si j'arriverai au bon moment, parce que c'est un aspect un peu particulier de sa poésie que je voulais.
Sa poésie, dire. D'accord, alors on y viendra peut-être après, si tu veux.
Peut-être Jean-Louis.
Allez, Jean-Louis. Je remercie Jean-Louis et Nicole d'être venus de loin quand même.
Oui, merci beaucoup.
C'est un peu particulier, parce que finalement, de vous tous, je pense être celui qui le connaît le moins. Et en même temps, j'ai eu l'impression de le connaître depuis bien avant. C'est assez curieux. Je voulais juste deux, trois petites anecdotes personnelles. Je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à écrire. Et puis, on s'est rencontrés, on s'est écrit. Au bout de, trois mois, il m'a envoyé une liste d'adresses. Il m'a dit, si vous voulez vraiment que la poésie entre en vous... Vous voyez, avec tous ces gens-là. Ces gens-là sont restés des amis depuis. Ça fait maintenant 15 ans, 18 ans. Et voilà. Et il m'a pratiquement introduit sur la place de Paris. On ne s'est vu qu'une fois physiquement. Je m'en souviens encore. C'était un salon que je crois que c'était l'autre livre. Ou salon de la revue, je ne sais plus. Et bon, c'est exactement ce que je pensais qu'il serait. La deuxième anecdote, c'est qu'il m'a écrit une magnifique préface à un livre bilingue que j'ai édité chez Rudiger Fischer. Rudiger Fischer, c'est lui qui m'a donné les coordonnées de Rudiger Fischer. Parce que c'était aussi son ami. Et qu'il avait, entre autres, écrit, je crois, un bouquin qui s'appelait « Langue d'un art ». C'est-à-dire, il y a longtemps, chez Rudiger Fischer. Et la troisième fois, c'est lorsqu'il m'a accueilli dans sa collection Jalon, un livre qui s'appelait « Le Ressac des solitudes ». Bon, c'est personnel, ça. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est que je veux un petit peu parler de lui, ce qu'il est, Jean-Paul Mestas. Pour moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est que c'est un homme de mots. M-O-T-S, d'abord. tous les poètes ne sont pas des gens de mots, contrairement à ce qu'on croit. Lui, il aime les mots, j'ai la sensation qu'il aime les mots d'un amour viscéral, qu'il les choisit dans ses écrits. Il les choisit, pas forcément les plus forts, mais les plus denses, c'est-à-dire quelque chose qui n'a plus de scorie, qui est vraiment juste comme il doit être. Donc, moi, je le vois comme un alchimiste. Je le vois comme un alchimiste. Il est au courant de la douleur, d'où on part tous pour écrire. Et il la transforme par une masse extrêmement compacte, avec des mots choisis. Alors, les mots sont choisis, parfois, il les sort de l'oubli, carrément. Jean-Paul Mestas parle de guipure, il parle d'églogue, il parle de conche, choses comme ça. Et puis, par moments, c'est une simplicité tout à fait fausse, mais une simplicité qui induit une réflexion qui va bien au-delà du poème. Je pense en particulier à un poème qui m'a frappé, qui s'appelle Médiéval, que je voudrais bien vous lire. « Les mains de bois rejoignent une tentation des ardoises. La solitude aligne ses blasons, troubadours à la mode ou magiciens prescrits. Tandis que les marchands d'oubli cherchent un exutoire à leur soif d'avenir en déshabillant les étoiles. » Les marchands d'oubli, ça s'écrit IS. On pense aux marchands d'oubli des enfants, c'est autre chose. Et justement, ces mots-là, cette fausse simplicité, on a l'impression, enfin moi, c'est l'impression que ça me laisse, c'est que une image, il y a des images, chez Jean-Paul Mestas, pas énormément, mais il y en a, et chaque image est ce que j'appelle une maison pour le regard. C'est très important aussi. C'est quelque chose qui reste imprimé. Les oiseaux, qui sont souvent dans ces pages aussi, les oiseaux sont dans l'espace, et ils transforment l'espace en temps sédimenté, chez Jean-Paul Mestas. Il y a un mélange de l'espace et du temps, tout le temps, dans ces poèmes. Alors le temps, c'est important pour lui aussi, beaucoup. Ni maître, ni esclave, le temps, c'est le temps poétique. Ce n'est pas le temps chronologique, c'est autre chose. C'est une construction de mouvement. C'est quelque chose qui fait que sa poésie, il y a trois temps de la vie, bon, le passé, le présent, l'avenir, sa poésie, elle est dans les trois temps, elle est mémoire pour le passé, elle est présence pour le présent, elle est attente pour l'avenir. Et je voulais vous lire à ce sujet un poème qui s'appelle « Répétition ». Que savons-nous de ces villages où tant de vies déjà vécues se sont probablement croisées ? Les blés qui passent et repassent, allant t'as pris beaucoup, mais ils se taisent. Ils payent le prix du matin et la rançon du soir. Tandis que nous marchons au-devant des jachères en qui ressemer nos oublis. Passé, présent, futur. Et puis il y a la beauté, dont il parle souvent dans ses poèmes, parfois à mots feutrés, parfois explicitement. La beauté qui est générée par la quête de l'insaisissable. Et dans sa préface à mon livre « Une laisse du temps », il citait Joseph Joubert. Joseph Joubert qui a dit « En cherchant le beau, le poète rencontre plus de vérité que le philosophe n'en trouve en cherchant le vrai. » Et pour cela, il faut savoir s'abandonner à la musique du langage, à sa résonance, qui devra et la Paul Mestas, qui devra demeurer longtemps, plus longtemps que l'écho, après la fin du poème. Et d'où la nécessité, qui est dans ces poèmes, d'un mot, je crois, très important, d'une exigence complète et d'une rigueur comparable à celle d'un de ses poètes les plus aimés, j'ai nommé Reverdy. Là, je voulais vous lire... Le titre, c'est « Poètes » au pluriel. N'eurent à eux que l'impression d'appartenir au siècle et d'entrer avec lui dans un royaume où l'innocence avoue ses collines vacantes assaillies par les roses. Ils se voyaient grandir, on parlait d'eux, Leurs livres étaient vêtus de soie qui font rêver les femmes. Il aura suffi de l'accroc, la mode, un verre de trop, la mort. Et l'euphorie a pris la fuite. Chaque matin reste un prodige. Écoute, un mot rêve à ce qu'il sera lorsqu'il aura suivi l'homme qui lui ouvre la route à travers les nuages. Alors oui, Jean-Paul Mestas est un poète d'une très haute exigence. Cette exigence que ses poèmes m'ont donné un exemple, moi qui étais un jeune poète qui essayait de tracer des vers, l'exigence il me l'a apprise. Je le dis ici, devant vous. Il nous amène sur les hauteurs, là où parfois l'oxygène peut manquer, où le vertige peut guetter. Rien ne le choque davantage que le laisser aller poétique, ce qui lui vaut parfois quelques inimitiés littéraires qu'il revendique. J'ai envie de dire qu'au sens littéraire du terme, il tient parole. Mais là où tant d'autres la laissent se noyer n'importe où en se vantant de l'avoir libérée, il lui laisse entière liberté dans le cadre fixé. Et le cadre, c'est justement le respect inflexible de la langue. Et la parole reconnaissante le lui rend bien. Chez Jean-Paul Mestas, le poème devient harmonie entre le langage et la perception du réel. Alors on parle parfois de distanciation à propos de son œuvre. Je l'ai entendu. Mais dans cette distanciation, il y a en permanence un voilement-dévoilement. Et donc une fusion. Et cette fusion, c'est elle qui permet la rencontre avec le lecteur. Alors beaucoup le voient aussi comme un maître de l'analogie, et ils n'ont pas tort. Mais cette cérébralité, pour moi, s'efface devant ce que j'ai envie d'appeler, pardon pour l'oxymore, un lyrisme épuré, et une application à la fois stricte et romantique des 5 conseils de Rilke, faire silence, entrer en soi, observer son environnement comme s'il était neuf, laisser émerger les images et se laisser porter par son rythme. Et donc je voudrais finir par un poème qui fait partie d'un livre qui devait paraître en 2013 et qui a été édité grâce à Christian en 2015, qui s'appelle « Je sais bien ». Je sais bien qu'il faudra redessiner un vieux passé, réinventer la moindre des merveilles et offrir au silence un rosaire de poésie. Je sais bien que le temps surveille mon jardin secret.
Merci. Merci Jean-Louis, merci beaucoup.
Je crois que je tombe juste où il faut. J'avais deviné que Jean-Louis donnerait une vue très, très globale, je crois, de la poésie de Jean-Paul. Et puis, je voudrais simplement affiner un peu pour insister sur un aspect de la poésie de Jean-Paul Mestas qui est cette force qu'il obtient par la concision, par l'usage de formes très ramassées et par en fait la place qu'il sait donner dans le poème à tout un espace pour le non-dit. On a parlé des non-mots, mais il y a aussi donc en poésie le non-dit, l'un pouvant procéder des autres. Voilà, donc je voulais souligner cet aspect bon, de cette poésie. Poésie qui, il faut quand même le souligner, a été, on avait terminé là sur ces mots-là tout à l'instant, un peu le jardin secret justement de Jean-Paul, parce que très occupé par toutes ses activités en facteur de la poésie, il faut bien dire que sa propre création est restée au fond assez discrète. Donc Nous la connaissons par les publications qu'il avait pu en faire, ça et là, y compris dans la revue Jalon. Enfin, il faut bien reconnaître que elle est quand même restée un peu secrète, quoi, aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai été frappé très souvent en lisant les poèmes de Mestas par ce caractère de concentration et ce mélange, en fait, de tournures qui sont des surprises, des raccourcis, et combiné avec des formules d'apparence familière, mais qui se trouvent un peu comme surprenantes une fois qu'elles sont insérées dans le poème. Voici un premier poème, assez bref, qui s'intitule « Au second degré ». Les Élysées, tu te rappelles, eurent des vaisseaux bien à eux. C'était une époque ambiguë, mais d'étonnants royaumes. On buvait l'aube dans des crânes. Un amandier portait le nom de l'alphabet magique. Et le soir dormait dans nos mains. Donc, quand on lit ces poèmes de Mestas, on est frappé par cette façon qu'il a de refuser les facilités de, non pas du lyrisme, mais d'un lyrisme qui serait de convention. Donc pas d'envol généreux, mais un peu calqué sur souvent des habitudes du passé, mais au contraire des images qui sont rares, mais qui sont fortes ou énigmatiques. Et puis, dans cette poésie, donc, de nombreuses ruptures, comme des cassures dans le texte, des phrases brèves, des interruptions imprévues, et qui, tout cela, donnant finalement la force au poème, à la fois par ses effets de surprise et par... l'obligation qu'on a de faire attention à chacun des termes. Dans une suite de poèmes qui s'intitule « Suite en gris sur fond d'aube » qui était paru en 2004, on trouve justement porté, je crois vraiment, au mieux cette caractéristique de la poésie. Comme dans ces trois vers, par exemple, « Épave, nous flottons au prix d'un équilibre entre étonnement et vertige. » Alors cet étonnement entre... cet équilibre, pardon, entre l'étonnement et le vertige, c'est vraiment un équilibre que seul, justement, un vrai poète, celui qui vit intensément entre les mots tous les jours, parmi les mots, peut le faire. Et dans sa poésie, on trouve, grâce à cette exigence justement interne, un dosage tout à fait subtil de spontanéité, de doute, d'humour et aussi d'amertume. Voici un petit exemple. Je m'habitue à un décor cousu de fils devenus blancs. Il n'y reste que les voyelles, enclines aux métamorphoses, et des vigiles en DV. Le goût du morard, ici, culmine avec la fin. Et donc on trouve là ces tournures tout à fait elliptiques, et c'est une poésie qui a l'air de vouloir cacher un peu son feu secret. Pourtant, il y a dans cette poésie aussi, il peut y avoir une étrange folie verbale. Et cela peut conduire paradoxalement la parole une grande ténuité, a frôlé pratiquement le mutisme, ce qu'il exprime lui-même dans ces quelques mots. Aussi je ne dis rien, j'attends, tel un silence sous la neige. Le silence sous la neige, appelé par le poète, et ça pourrait bien être ce qui suscitait l'éclosion d'une aube de parole, et puis mener à bien, peu à peu, la chaleur d'un partage. Voici un petit poème qui s'intitule « Pour finir ». Silencière, nous le fûmes, au milieu des gueules de loups, tentées par l'eau des toits. La chaleur signifiait si peu que l'on rêvait d'avoir été un moment de soleil, mais les parfums nous démentirent. Une rose mourait dans l'étuve de ses pétales. Un autre poème, très délicat. Ne parle pas si bas, nul ne t'entend que moi. L'oreille contre terre, et quelquefois la main dans tes cheveux, que l'herbe a rempli de fleurs tristes. Voilà, j'ai voulu souligner donc ce côté très particulier de vraiment l'économie du langage dans la poésie de Jean-Paul Mestas, qui lui donne justement cette force singulière. Et je voudrais profiter d'un hasard de courrier reçu pour associer à notre hommage commun la voix de Jean-Claude Coiffard. Parce que Jean-Claude Coiffard vient de m'envoyer un recueil qui s'intitule « En ma mémoire obscure » dans lequel il y a des portraits, c'est une spécialité un peu de Jean-Claude Coiffard, des portraits de ses amis poètes. Et il y a un poème, donc, qui s'intitule Jean-Paul Mestas. Le voici. Orpailleur du silence, à genoux dans la rivière des mots, tu secouais un tamis où brillaient des pépites. Alors, délaissant les paillettes, les yeux levés au ciel, tu parlais aux étoiles, dans la langue du cœur, les hommes comprenaient, ou quelquefois un ange servait de traducteur. Voilà, là c'était la parole de Jean-Claude Coiffard.
Merci Michel.
Merci beaucoup Michel.
À propos justement de Jean-Claude Coiffard, je voulais citer ce qu'il écrit. La plume de Jean-Paul Mestas, disent-ils, une poésie emplie du parfum des roses et des rêves des nuages. La première fois que j'ai croisé le regard du poète, il y a déjà quelques années, j'y ai entendu des bruits de lumière. Je crois qu'il venait d'un ailleurs, bien au-delà des mots. Cet ailleurs, on le devine, lorsque les mots du poème ouvrent les grilles du ciel, lorsque les pages du livre tournent sur les gonds du songe. Je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Jean-Louis. Il a fait allusion, effectivement, j'avais oublié de le citer, que Jean-Paul Mestas a eu également un rôle d'éditeur, puisque chez Barret d'Ayez, la collection Jalon est importante. Il y a énormément d'amis qui étaient fidèles d'Arrêt Jalon, André Perragallo, oui. Entre autres, je pense à lui en premier. Il y avait aussi d'autres poètes d'origine catanoise, André Lagrange, oui, oui, voilà. Et donc, j'y pensais subitement que c'est grâce à Jean-Paul Mestas que c'est lui qui nous a trouvé avec Pierre Esperbé et moi notre pseudonyme commun en nous publiant donc le livre qu'on avait écrit ensemble sous le nom Arne, donc Nu Magnifié, c'était notre pseudonyme à Pierre et à moi. Voilà, et c'est Jean-Paul qui avait trouvé le pseudo. Voilà, dans cette collection Jalon,
Oui, qui est important.
Importante. Oui, il y a pas mal d'exemplaires de cette collection.
Beaucoup de personnes d'Arrêt Jalon.
Oui, oui, qui venaient régulièrement, qui malheureusement sont maintenant soit très âgées, soit décédées. Voilà. Donc maintenant, au niveau de la poésie aussi, j'avais... Je veux pas non plus couper l'herbe sous le pied à Jean, mais on ne sait pas ce qu'il a prévu. Puisqu'on parlait donc de la poésie, il cite à plusieurs reprises donc Henri Bernier dans sa présentation ce que Jean-Paul écrivait lui-même en parlant de la poésie. Et en parlant donc là, c'est un chemin à rencontrer. Ah oui, non, ça c'était lié à ces rencontres avec les poètes, je dirais, du monde. Un chemin où rencontrer une Alice Spindola, déjà évoquée tout à l'heure, la brésilienne, pour qui la poésie est comme une hirondelle venue de France, une Gabriella Mistral, la chilienne, pour qui la France fut une naissance toujours recommencée. Un Hernando de Bengoechea, je ne sais pas prononcer les noms, je suis désolée. Connais bien. Armée d'amour telle que l'était Ernest Ticari, pour l'univers au nom duquel témoignait la France. Un Alfredo Gangotena, d'accord, l'équatorien pour qui la France incarna l'amour. Une Yolande Westphalen, la péruvienne. Prix Gabriella Mistral, qui regarde la France comme l'île où naît la lumière. Et c'était pas ça au départ que je cherchais. Voilà, c'était plus quand il parlait de la poésie. Qu'est-ce que la poésie pour Jean-Paul Mestas? Donc là, citation. C'est un chemin pour aller à la pensée, attraper ou rameuter l'intelligence, pour retrouver l'homme tel qu'il fut et sera. La poésie a été un mouvement de me fuir dans le présent, en tentant de me rejoindre dans un avenir plus proche que le rêve. Cette attitude, souligne-t-il, ne comporte aucune ambiguïté. Elle tient au fait que je me suis beaucoup penchée sur les questions de l'astrophysique et que je suis toujours restée sous le charme éonien des problèmes du temps et de l'espace. Ma poésie est la poésie. C'est l'expression médiate et immédiate de la réunion des trois étapes du temps, que tu as bien vu, pour deviner un univers. Le visage que l'on s'y donne ou celui que l'on souhaiterait avoir, celui que l'on poursuit éperdument sous les mots, les images, les sensations et les sentiments. Et c'est sans doute en même temps la révélation de son double, celui qui ne veut pas mourir et ne perd de vue que le futur est déjà né avant que la mémoire ne s'empare du passé. Voilà, donc ça c'est Jean-Paul lui-même qui parle de la poésie. Je pense que c'est important, voilà. Donc on passe la parole à Jean, à moins que Chris veuille intervenir aussi, là, entre-temps.
Bon. Ben c'est une intervention de Jeanne Maillet.
Ah oui, aussi.
À moins que vous préfériez, Jean, lire votre texte, est-ce
non,
que
non.
Ça s'est
revenu ? Allez-y, non, non. Bon.
Alors, je suis obligée de me lever parce que
Jeanne Maillet, effectivement, qui d'ailleurs est également dans cet ouvrage.
Oui. Alors Jeanne Maillet, c'est une amie du Nord, enfin des Hauts-de-France, qui a animé un cercle poétique à Saint-Paul-sur-Ternoise, qui a duré une trentaine d'années et qui, bien sûr, maintenant ne peut plus se déplacer. Donc elle m'a chargée de vous lire ceci. Chers amis de Jean-Paul et sympathisants de Jalon, chers vous tous réunis ici cet après-midi pour un hommage à notre ami, je vais commencer par la lecture de trois poèmes de Jean-Paul. Ils sont courts, comme presque toujours pour ce poète qui connaissait bien la capacité d'attention d'un auditoire connaisseur, simplement parce que la poésie ne doit jamais être mise en surcharge si elle veut remplir son vrai rôle, pénétrer au meilleur de l'esprit, creuser en lui le plus juste espace d'attention possible. Voici les poèmes. Les saisons mortes ressuscitent. On croit les voir, on les entend gratter légèrement aux portes et montrer pattes blanches après quelques hésitations. Cette fois, on se sent heureux dans un morceau de souvenir, gros comme une sensation forte. À la fin d'une histoire ou de la vie monta le plus étrange des soupirs. Alors, ces deux poèmes sont extraits de d'Anna. C'est une petite collection que j'ai faite, dont je vous donnerai un exemplaire tout à l'heure. Juste le temps d'une courte respiration, et voici un autre texte tiré d'Anna numéro 1. Je souligne ceci. Les deux dernières phrases du poème évoquent une fleur, une églantine. Admettons avec bonheur que cette églantine soit, avec le poète, notre compagne d'après-midi. Sans même y réfléchir, on remonte à genoux un long chemin de siècles entre des ronciers invisibles. Une églantine quelquefois se libère et nous accompagne. Voici donc l'églantine, c'est une fleur discrète. Elle est du domaine de celles qui existent, mais ne se manifeste pas avec des éclats trop vifs et apparence chamarrée. Avec ce poète, tout se passe en intériorité. Il vous avait en face de lui. Petit temps pour vous regarder jusqu'au fond des yeux. L'examen n'a pas été à votre profit, il ne vous le dira pas. Mais il y aura dans son attitude quelque chose comme de réduit, un aparté de sa personne, et vous aurez eu beau faire, rien ne le fera sortir de son opinion. Jean-Paul fut, c'est primordial de le savoir, maître en ingénierie, ceci pour le côté précis, lucide, méthodique, et même dans la façon dont il écrivait ses poèmes. Toujours pour lui, un carnet ou un cahier l'accompagnait dans ses journées. C'était un fidèle compagnon, il écrivait tous les jours. Il était très sollicité aussi dans ses prestations. Pour ma part, j'évoquerai pour vous cette journée mémorable qui nous réunit, lui, Chris et nombre de poètes venus des quatre coins de la France, à Roquebrune-Cap-Martin, en son vieux village. Nous avions prévu une causerie sur les écrivains du bassin méditerranéen. Les officiels de la commune, maire en tête, honoraient de leur présence cet après-midi presque festif, où la poésie fut vraiment en fête. L'admirable vue sur la côte et ses escarpements en fin de journée, ajoutant au bien-être des assistants. J'oserais dire de leur âme, car que vaut la poésie et la lecture de poèmes sans cette belle visiteuse? Jean-Paul nous a rejoints maintes fois dans ce qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France, à Saint-Paul-sur-Ternoise, où se tint pendant plus de 25 ans la réunion d'un cercle poétique dont les membres sont aujourd'hui disparus ou dispersés, mais dont ceux qui sont encore présents témoignent d'une réconfortante fidélité. Tout comme à Jalon, vous pouvez être fier de cette appartenance, toute mémoire à ses racines. Elles ont plus ou moins de mal à bien s'ancrer en terre. Mais il suffit d'une résurgence, d'un rappel, et le fleurissement ne se fait que mieux et d'une qualité d'émotion rare. Dans la discrétion, la douceur, l'affabilité, laissez-moi poursuivre par deux poèmes pour évoquer Jean-Paul. L'un de 2012 est fait mention de la belle figure de poète que fut Audrey Bernard, avec laquelle nous avons cheminé près de 20 ans sur nos rivages, en Île-de-France et région. Le voici. Je mentionne sa belle dédicace personnelle parce qu'elle me fait chaud au cœur, pour Jeanne. Cette fois, nous n'y pensons plus. La joie qui nous accompagne, au-delà de tous les silences, avec Audrey Bernard et les compagnons du soleil, invités au rire par Chris, les vieilles joies se rajeunissent avec la chance et l'amitié, frères des souvenirs, dont la mémoire fait la fête en caressant ses rêveries. Les rêveries, c'est bien en fin de journée qu'elles se présentent, avec un brin de nostalgie, mais surtout beaucoup de lumière, d'écho dans la tendresse et la fidélité de l'amitié et du partage. Car c'est bien ça que nous cherchons ici, n'est-ce pas? L'amitié et le partage, en tout simple et fervent éclairage, en toute poésie. Jeanne Maillet.
Merci. Oui, donc du coup, j'avais mis en évidence... Ah, la page est perdue. La page avec Jeanne Maillet et Jean-Paul, côte à côte.
que je faisais circuler. On va passer la parole à Jean.
Voilà. Oui. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu Jean-Paul à Ars et Jalons dans les années 80-90. Je vais dire très brièvement et très simplement le souvenir que j'en conserve. Quand je suis venu à Ars et Jalons pour la première fois, ça devait être en 81 ou 82, j'étais poète débutant, et j'ai découvert un homme qui possédait une aura. Il était habité par la poésie, il était la poésie. Et ça a été pour moi une révélation. Alors sa poésie m'émouvait, elle m'émeut encore, mais elle m'intrigue autant qu'elle m'émeut. Elle évite l'hermétisme, on l'a vu à travers les quelques poèmes lus. Elle évite aussi le didactisme, elle n'est pas énonciative. Elle a un sens sans être abstraite. Elle associe, comme on a dit tout à l'heure, la concision, et la concision fait partie peut-être de l'essence de la poésie. Et la concision permet au lecteur de faire son voyage personnel. Au rebours, tenter de tout dire, ça freine ce voyage personnel. La concision, le dépouillement, une simplicité apparente. Jean-Louis disait une fausse simplicité. C'est vrai parce que il y a un arrière-plan, il y a une profondeur. Enfin, je dirais que c'est une poésie qui n'est pas narcissique. La poésie d'aujourd'hui est souvent narcissique. La poésie de Jean-Paul est une poésie d'altérité, une poésie cosmique, qui dépasse de beaucoup l'ego. Le mieux, c'est peut-être que je lise un ou deux poèmes. J'ajouterai que ce qui caractérise aussi cette poésie, c'est l'importance de la chute. La chute nous catapulte vers le haut. Aussi vide qu'un cri. Ton tour est venu maintenant. Tu dois prendre congé en laissant ton message à la disposition du vent. Tu ne seras désormais plus qu'un thème sans paroisse, aussi vide qu'un cri. Fin d'hiver. L'envie lui vient de n'être ici que par erreur, que par défaut, comme un étranger mal reçu dans une ville ingrate. Il marche, il ne sait où il va. Le printemps s'abolit pour naître un peu plus tôt que d'habitude, et il en est heureux. Handel l'accompagne.
Merci.
Merci, merci Jean. Merci.
C'est vrai que c'est vrai qu'il avait, enfin, une aura, j'ai un charisme. On voyait que sa poésie était en même temps sur lui. Enfin,
oui, en lui.
Ce qui m'avait frappé, c'était il ne connaissait pas, enfin, ou pratiquement pas, et c'était la chaleur de ses lettres.
Oui.
Très très chaleureuse, très, qui donnait confiance, ça c'était formidable, moi je découvrais ça.
On passe la parole à Francine.
On fait un break entre deux.
On va parler de un peu quand même de Crise, parce qu'elle voulait pas trop qu'on parle d'elle, mais elle est quand même venue avec des œuvres à ma demande. J'ai insisté, il a fallu que j'insiste. Oui, alors, on a évoqué beaucoup la poésie, mais il n'a pas écrit que des œuvres poétiques, hein, on doit le souligner quand même aussi. Il a écrit énormément d'ouvrages plus,
des essais.
Voilà, ouais.
Bah, il y en a un ou deux sur la table.
Voilà, et donc, oui, parce que là, dans un article de La Montagne, il est spécifié que, au sujet de cette journée à Clermont-Ferrand, en première partie, Jean-Paul Mestas parlait de la lumière dans l'esprit
À travers des citations de philosophes et de poètes, il invitait l'auditoire à la frontière de la métaphysique et de la poésie à méditer et à rêver aussi sur le sens de notre vie et celui du monde. Et il a écrit quand même énormément d'ouvrages aussi qui sont davantage philosophiques.
Est-ce que je peux raconter une petite anecdote à cette journée?
Bien sûr.
À Clermont-Ferrand, c'était en plein hiver, il faisait très froid, le ciel était gris mais très bas, et on était dans une salle qui était perdue dans le haut, si vous connaissez Clermont, derrière la cathédrale, là. Pour y aller, déjà, c'était tout un problème. Et quand on est rentré là, on a vu les gens arriver par paquets. On était 400. On n'avait jamais vu ça en poésie. Ah, 400 personnes.
On s'est dit, heureusement qu'on n'est pas 400, là. Hein.
Non, mais on s'était dit, ils ont froid, ils viennent se réchauffer. Il y a un truc qui est bizarre. Mais c'était formidable, cette journée. Elle était très bien animée.
C'était en novembre.
Oui, c'est ça.
C'était un temps...
Comme ça, mais presque à la neige, puisque à Clermont, il fait froid.
Et l'œuvre musicale était justement de Handel.
Oui, il y avait trois musiciennes, et puis il y avait quelqu'un, je ne me rappelle plus, mais il y avait un récitant aussi. Oui,
récitant, Josépha Genet et Marie-Françoise Savary.
C'était deux comédiennes.
Voilà.
Alors évidemment, il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment passionnant, là, cette journée-là. Mais nous, quand on avait vu ça, on s'est dit on n'aura personne avec le temps qu'il fait. Mais non, c'était archi plein.
Et donc Henri Bernier évoque quand même également les collaborations entre Chris et Jean-Paul, puisque vous avez fait énormément d'ouvrages en commun. Ça vous arrivait de travailler ensemble, lui d'écrire sur ce que tu peignais?
Ben, j'ai plutôt tendance à piquer ses...
Plutôt peindre sa poésie, être inspiré par...
Mais ça lui arrivait aussi.
Et il disait que... Oui, que tu avais pris une part active, ça c'est sûr, dans les entreprises que conduisait Jean-Paul.
Mais donc, notamment Jalon.
Ouais, exactement.
Je faisais tout de A à Z.
Donc là, il avait précisé que tu as fait tes études à l'atelier des arts décoratifs du Louvre,
c'est
chez Christian Zeymert.
Oui.
Que tu es sociétaire de la Fondation Taylor.
Oui.
Membre de l'Académie internationale de Scienza Humanistica. De Uruguay.
Je suis
désolée. Hein. Je vais essayer de prendre mon temps là. Uruguayana, au Brésil.
Uruguayana.
Oui, c'est simple finalement. Quand on réfléchit. Enfin, quand on réfléchit. Moi, au contraire, j'essaye de trop réfléchir. Membre d'honneur de l'Académie Araldica de Catane, en Italie. Membre du directoire international Writer and Artist USA. Sa peinture, disait-il, sait exprimer toutes les nuances du sentiment et elle peut atteindre à des violences surprenantes comme à des transparences ineffables. Formelle, elle nous présente des visages, des couples, des formes humaines dans lesquelles, selon l'expression de Paul Miclot, dans les cahiers roumains d'études littéraires de Bucarest, le jeu des figures est brisé et où le peintre introduit des ruptures comme des signifiants de nos déchirures actuelles. Alors, donc, on va effectivement faire une pause au cours de laquelle vous allez pouvoir regarder les œuvres de Chris. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur...
Alors, j'ai apporté un livre qui justifie ce que vient de dire Colette, c'est-à-dire poésie, enfin, extrait de poème et dessin. Voilà, c'est le
classeur.
Le classeur noir.
Ah non, c'est pas le classeur, c'est le livre.
Le livre noir.
Oui, je l'avais ouvert tout à l'heure à une superbe page.
Oui.
Mais il est refermé là, c'est dommage. Donc on fait une pause, le temps de regarder les œuvres.
J'ajouterai que.
Oui, attendez, on va
le livre dont j'ai lu deux poèmes tout à l'heure s'intitule Le livre des crépuscules. Et sur la couverture, il y a une peinture de Chris.
Exactement. Voilà.
C'est pas une des meilleures que j'ai faites. Puis alors, il y avait eu un problème de...
Non, mais elle va bien avec le tien.
Oui, elle va bien, mais il y a eu un problème de reproduction.
Ah, ça, c'est pas évident. Hein. Donc, voilà, on fait une pause là-bas. Deuxième partie, vous pourrez davantage intervenir. Francis interviendra aussi. Et moi, je vous lirai de larges extraits d'un livre que j'adore, voilà, Entre les colonnes du vent. Voilà, allons-y, on fait une pause.
Je viens, voilà.